sommes nés mardi matin sur Aligre FM 93.1. Et nous sommes dans La vie est un roman. Et nous avons aujourd'hui la chance, et le plaisir et le bonheur de recevoir Antoinette Marshall, qui est écrivaine en devenir, danseuse de French Cancan et danseuse de burlesque, une plante splendide, pleine de vie. Et donc, elle écrit des textes à tendance légèrement érotique. Je sais qu'il est tôt, mais enfin, on ne peut pas choisir. Et vous pourrez les réécouter en podcast pendant la nuit. Et donc, Antoinette et moi-même, nous allons lire à tour de rôle un certain nombre de ces textes. Et je vais vous lire le premier texte, comme ça, ça permettra à Antoinette de se mettre petit à petit dans l'ambiance. Détendez-vous, arrêtez d'insulter les autres conducteurs, tout va bien. On va s'occuper de vous, mes amis. Le bleu de Juliette. Je sens l'angoisse. Je suis une transpiration angoissante. Ma jeunesse me rend incapable de la transcrire dans ma propreté parfaite ou figurative. Je regarde, admire l'installation lumineuse. Elle me nargue, elle me dit « L'amour est un vide, un gouffre qui par définition n'a pas de fond. Les hommes s'y jettent, les femmes y pleurent. Mon balcon n'avait pas de socle, vos yeux étaient là pour le voir. Tout était clairement dit. L'envie qui vous pousse à courir après vos amants pour leur dire « je t'aime », tout ça se résume à pousser sa vie dans un gouffre, un suicide intempestif. Pour autant que vous aimiez et que vous sachiez ce que cela signifie, il faudra tomber de bien haut. Juliette meurt. J'ai tissé une cohorte avec mes plus beaux rubans, un travail qui dura des heures. Mais au final, tu ne remarquas que le résultat. Celui-ci ne te sembla pas d'une grande valeur. Alors tu me jetas la cohorte au visage. À genoux, je m'effondrais entre mes cuisses, laissant les gouttes couler sur mes joues. À genoux, comme ça. Tu te rapprochas de moi, souleva mon visage trempé. L'élan fut rapide et la violence de ton geste soudain. Sans le remarquer, ta main venait de s'écraser sur ma joue. Stupéfaite, mes larmes cessèrent et la colère m'envahit peu à peu, la haine et ce mélange d'excitation, ma culotte humide. Aussi loin que je me souvienne de ton engin, je désirais le broyer entre mes dents, le visage brûlant. Je restais là, assise, recroquevillée dans mon coin, avec cette envie de te buter. Mais l'estime si peu présente me paralysait dans ce coin, ma culotte détrempée. Accourant vers moi, le pied en plein dans mon visage, plusieurs coups se suivirent, dans les hanches et sur la poitrine, la main dans ma culotte, le doigt dans mon vagin, je touche l'extase, je jouis. Ne supportant plus mon plaisir bestiaire, tu empoignis mes cheveux formant une cohorte autour de tes doigts et tu tiras de toutes tes forces. Ma bouche s'ouvrait comme pour laisser échapper un cri. Mais je poussais de petits gémissements. Je jouis une deuxième fois. Mon ruban dans ta seconde main, tu l'enroulas autour de mon cou, serrant encore et encore. Mon visage rougissant, ne pouvant plus respirer, l'amorphe coulait en même temps que les larmes sur mon visage. Si triste était ton tableau. Je ne jouissais plus.
Esquisse d'une retrouvaille. Il ne restait que l'empreinte des cadavres d'après-guerre. Cette fois-ci, tout était rempli de caresses, de désirs et d'amour. Avec lui, j'avais tout connu de ma vie et j'apprenais encore. La vie était surprenante. Elle me faisait tomber amoureuse chaque jour un peu plus. Il m'avait à demi pris contre lui, il scrutait avec ses yeux, avec ses mains, les parcelles de mon corps comme un enfant maladroit. Il jouait à l'être, soulevant avec ses doigts la culotte blanche que je portais. Sa langue se posa sur mes lèvres. Je fus envahie rapidement par l'excitation, ma respiration s'accéléra. Il continua en lapant régulièrement le clitoris. Mon corps se crispait et donnait quelques à-coups sous son visage. Je n'en pouvais plus. Il se hissa jusqu'à moi, m'embrassa avec un filet de mon odeur dans la bouche. Son baiser était doux et mouillé. Tout contre moi, je sentais son membre érigé, cherchant le chemin humide d'entre mes cuisses. Rien n'était comme d'habitude. Ces retrouvailles pleines d'amour et d'audace, tout me sembla naturel. Les regards, les caresses, la pénétration. Son sexe immense ne tarda pas à trouver la bonne voie et très doucement, il s'introduisit en moi. Il me prenait par derrière, allongé sur le flanc. Je pouvais lui faire face, la gripper, le regarder, l'embrasser, lui gémir au visage. L'excitation était à son comble, son pénis entouré de ses doigts dans le même trou. Une partie de moi ne tenait plus en place. Un regard, puis il se retira doucement et prit le chemin de mon anus. Le début fut un peu difficile, mais mon intérieur ne tarda pas et mouilla aussitôt presque aussi généreusement que ma chatte. La petite douleur du départ se dissipa en plaisir immense lorsque mon partenaire entra entièrement en moi et je jouis une première fois. Je me demandais comment une bite aussi grosse pouvait entrer dans mon derrière. Peu à peu, je pris le relais des mouvements de va-et-vient et je jouis une deuxième fois. Je le repoussai en dehors de moi, mon trou demandant le repos. Je descendis prendre en bouche ce tuyau érigé que je passai rapidement sous mes dents et mon palais, jusque dans le fond de ma gorge, allant chercher rapidement le réflexe de régurgitation qui lubrifiait encore plus ma bouche. J'aimais manger sa queue, j'aimais l'enfoncer plus loin que de raison, jusqu'à ce que mes yeux s'imbibent de larmes. Il fallait que je m'en retourne à une pénétration plus profonde. À cheval sur lui, je le fis gémir, lui fis me dire « je t'aime » en plein ébat. Il voulait jouir en moi, et je lui proposais de finir par derrière. Son pénis glissa très aisément la seconde fois. Je sentais mon anus dilaté et écarté comme jamais, prêt à recevoir une rincée d'orgasme. Nos deux corps se courbaient et ondulaient de plus en plus vite. Je sentis dans ma croupe sa bite se gonfler. Dans un petit cri, il se déversa en moi, longtemps.
Cervidé. Et quand le cerf tombe sur ses bois, un immense cri, un immense fracas. Il laisse derrière lui un bout de carcasse. Il laisse derrière lui et pour nous le symbole de ce qui était sa force et sa vie. Et il piétine entre les arbres. Il court au grand galop pour ne plus souffrir. Il s'en va loin, très loin, pour oublier la douleur en attendant que ses bois repoussent. Il vit seul. Les autres ne veulent plus de lui. Sans ses bois, le cerf n'est pas. Sans ses bois, le cerf n'est rien. Tout est amour, tout est trahison. Ses bois grandissent et se dressent dans les profondeurs de cette forêt. La vie reprend. Il donne un nouveau souffle de vie aux cafards de l'océan et les carcasses se surpassent. Elle, en un souffle, guidé par le vent, danse autour de lui. Ses mains encerclent sa gueule, caressent son corps. Tout est vie, tout est harmonie. Tout est fusion dans le bas-fond de l'océan. Personne ne peut les voir, personne ne les entend. Éclaboussure, l'or fond, et gicle sur les bois, sur les arbres, sur la vie qui reprend doucement. Ô grand maître, que pourrais-tu me pardonner? Le breuvage ne m'atteint plus dans la descente. Quelque chose me ralentit. Entre une lumière devenue terne et le puits boueux, je sombre. Les poches pleines de bile noire, elles dégueulent sur moi. Si lourd est le liquide que le pantalon ne tient plus. Les bretelles explosent et contre les parois de pierre, l'embout se cogne, dégageant un cliquetis sourd. Tout se casse, mais rien ne me perfore. La bille se baigne en moi, nageant aussi vite que ma chute. Jonglant entre mes trous, slalomant à travers les articulations, une agréable et oppressante douleur parcourt mon corps, dont le souffle s'insurge. Je respire du plomb, il est difficile de faire passer cet air dans mes poumons. Je tousse fort. L'étau se ressort. Le taux se resserre. Je peux sentir plus proche de moi les parois froides du puits. De bas en haut, mes gémissements résonnent. Comme une éclipse qui atteindrait le soleil, jarte quelque chose de dur. Une immense contraction à deux pas de ce sol. Oui, une immense contraction me bloque à deux pas de ce sol. Ma tête se relève doucement et je m'évertue à laisser s'échapper ce qu'il reste de précieux en moi. Un liquide chaud se propage, calmant l'ardeur de la plaie. Mes mains me caressent à la découverte de ce nouveau corps empalé dans la pierre, se brandissant à travers moi et m'élevant vers le faisceau de lumière. Mon imagination se perd, laissant place à la réalité, au seuil de ma jeunesse et de mon apogée. Un vent me balaye. Ma carapace ne se dérobe pas. Elle s'y emporte. Dire d'une poudre qu'elle ne s'envolera pas. Sans conséquence sur sa vie, on lui ôtait tellement de choses dans un esprit de contrainte et de variation. Sans prétention. Elle attira la foudre, si dure était l'envie. D'une subtile bonté, elle aurait pu renaître en un cliquetis. Mais l'humanoïde qu'elle avait rencontré toucha le ciel du bout de ses doigts. Elle explosa, de son corps jaillit la lumière qui restait en suspens au-dessus de ce qu'il restait de la vie. Le cerf n'était pas dupe. Il comprit rapidement la trahison. Dans son tourment et ses blessures, il se servit de son vie. Nettoya les terres du fluide argenté qui s'écoulait de son extrémité. Dure sera l'éclosion. Il se tordait sur un rocher de souffrance. En son ventre, lui, le mal, pouvait enfanter. La sueur perlait sur tout son corps. Il se sentait humide. L'enfant-feu provoquait en lui des tremblements de partout son être. Jamais en ces sentiers une telle scène ne fut observée. Non loin de lui, les fleurs se fanaient. Les oiseaux, ne pouvant plus siffler, se mettaient à hurler. Imaginons que mon cœur soit une pelote de laine, que les fils de laine soient des vannes. Imaginons que je me coupe au bord de l'index, que le fil de la laine dépasse un peu. Imaginons qu'en passant par là, tu tires dessus, lentement au début, pour bien que je sente la laine accrochée à mes os, ma chair et ma peau. Et qu'au moment où tu sentiras la résistance, tu tires d'un coup sec.
Le gâteau à la fraise. Il voulait un gâteau à la fraise. Je suis devenu un gâteau à la fraise. Dans sa voiture, en un clin d'œil, son désir s'exauça. J'étais ronde, crémeuse et bourrée de fraises. Il me mordit, me croqua et mangea un bout de moi. Sa bouche délicieuse chauffa tant mon corps que ma crème fondit. Elle passa à travers mes vêtements. Liquide et moite, j'étais sur le sol. Il ne se déroba pas. Il lapait toute la crème éparpillée et s'attardait sur les petits morceaux de fraises. Il léchait doucement, généreusement, intensément, ce petit bout de fraise. Ce petit bout de fruit tout rouge qui dépassait de cette crème légèrement rosacée. Il nageait dans mes profondeurs, se nourrissant de ma douceur. Mes sucreries animant rapidement le cerveau. Il ne pouvait plus tenir, mais avait mangé tout le gâteau. Je n'étais plus. Il s'allongea et caressa son petit membre. Il décalota son pénis et essuya dessus un peu de crème qui était restée au bord de ses lèvres. Et comme pour me pénétrer, il se retourna contre le sol. Il se mit à genoux, un bras contre le mur, il commença à se toucher plus fort. Imitant les mouvements de va-et-vient de l'amour, il se masturbait fort. Puis le sperme s'échappant, j'apparus devant lui comme une étoile filante au bout de son sexe encore érigé vers moi. Les pensées de la honte. Mon moi n'est jamais aussi fort que quand il veut baiser. Alors il se renforce pour arriver à ses fins. Quand je suis amoureuse, je suis heureuse, je suis parfaite. Quand j'aime, je suis possessive, jalouse et infidèle. La nuit rougit, mon esprit en feu. J'entendis mon colocataire sortir de sa chambre et se poster devant la mienne, alors que je me masturbais déjà depuis quelques minutes en pensant à mon amant de la veille. Il avait laissé sur mon corps, que je n'avais pas lavé, une fine pellicule de son odeur qui m'excitait. Je le vis à travers la fente de ma porte entrouverte. Éclairé par le réverbère de l'arrière-cour, son ombre se dessinait. Nos regards se croisèrent, il me matait tout naturellement. Il sortit son pénis de son pyjama, jetant un regard à son engin déjà bandant. Le pantalon aux chevilles, il se caressait tout en me regardant me masturber. De petits gémissements provenaient de l'extérieur de ma chambre. J'avais envie de dégueuler, de le frapper, de lui dire de dégager, mais mes mains ne pouvaient quitter mon sexe, mon dégoût se transformant en excitation. Je me retournais sur le ventre afin de ne plus le voir, mais je ne contrôlais plus mon fantasme. Je l'imaginais pénétrer dans mon lit et me serrer fort contre le matelas. Ne pouvant plus me débattre, je lui céderais ma croupe dans laquelle il aurait pu s'introduire facilement. Sa forte odeur m'enivrerait de mon cul à ma langue et je me retournerais et le supplierais de fourrer sa bite dans ma bouche. Je me servirais de ses fesses pour faire des mouvements de va-et-vient qui me chatouilleraient la gorge au point de presque vomir. Je m'appuierais contre le mur et sa tête s'enfoncerait dans mon cul lorsque je viendrais pour la première fois. Nous sommes le 31 octobre. À côté de lui, sur le flanc, nous nous caressons en nous regardant. Je sens son membre dur à travers son caleçon. Ma zone censée être humide est inondée. Je n'en peux plus. Je ne connais ni la douceur, ni l'odeur de son sexe. Je ne connais ni son visage. Je n'ai rien vu. J'ai juste senti dans le désir, senti de loin, senti contre mes fesses, senti contre ma fente, juste en surface. Et depuis, tout n'est que tourment. J'imagine me faire prendre, attachée à son lit, la tête en bas et le cul en l'air, et qu'il me lèche partout avec sa langue délicate. Qu'il inonde de sa bave ma croupe, l'intérieur de mes cuisses, et qu'il introduise sa langue et ses doigts dans tous mes trous. Tous. Nous sommes le 8 octobre.
Nous allons faire une petite pause musicale.
Sur tes yeux bleus, sous ta perruque, d'autres cheveux, tu te caches, petite fille. Sous tes fossiles coule le ricine. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pleures et c'est mieux, t'es si jolie quand t'as mal. Ça m'en folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Tu lis souvent des magazines, on dit que tu ressembles à Marilyn. Tu as le même sourire fragile, t'as même déjà joué dans un film. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pourrais soulager des marines, c'était si joli quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Svelte et élastique, toutes les nuits traverse la ville. Tout est précis, merveilleux. Allonge le pas pour voir un peu. Tu sors au baron, Régine. Tu te brises souvent dans l'alcool, mais tu ne couches avec personne. Ça laisse des traces indélébiles. T'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ouais, 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 t'es mots sont... souvent sonne creux et quelquefois j'imagine tes lèvres embrassant des vitrines, t'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Si jolie quand t'as mal, ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent.
Lettre 1. Si jolie. Depuis notre rencontre, je suis soumise à une réflexion lointaine. Ma fraîcheur et ma jeunesse ressurgissent et toutes mes angoisses avec. J'ai à nouveau 17 ans. Perdu et excité comme jamais, triste et ambitieuse, folle et pleine d'énergie. Je ne tiens plus en place, je ne dors plus et m'égare dans mes érotiques pensées. Une perdition immense, une bêtise grandissante, l'essor d'une sexualité naissante. Mais où allons-nous ? Nulle part. Et j'y vais seul. À lisière d'un bois, nous promener, voir une patte de biche abandonnée, à moitié dévorée. Mais où allons-nous ? Entre deux branches, me promener par ici, par là. En toi, en moi, jouir de nos deux corps à la fois, trempés comme je ne l'ai jamais été, une redécouverte de l'extase. Le craquement d'un petit animal voyeur, pervers le rongeur qui se touche devant nous. La boiteur de nos carcasses attire la faune qui ne se prive pas du magnifique spectacle que nous offrons. Le secret qui me fait frissonner, ce souvenir s'extasier, ce souvenir d'une brûlure juste au creux des cuisses et d'un gonflement, des caresses à travers une culotte humide. Mais où vais-je dans cette démence, loin de toi, une rencontre marquée et blessée à jamais? Lettre 2. Parce que le simple fait de penser à toi me donne envie d'éclater nos deux têtes ensemble dans une union si parfaite qu'elle me rappellerait nos petites sauteries. C'est alors que les bulbes qui nous servent de crâne se briseraient, laissant échapper ce foutre rachidien, donnant la sensation de ce qui s'écoule le long de mon vagin lorsque tu te retires. Voici mon âme puissante, l'entrée de ma petite chatte, ornée de véritables pointes, de petites canines en dents de requin. J'ai mangé le cerf qui tant de fois me fit jouir. J'ai mangé la plaie et aussi le nacre. Son petit goût salé n'existe plus que dans le symbolisme qui s'éteint peu à peu. Cette vipère qui se planque dans mon ventre, qui parfois bouge, mais surtout qui m'empoisonne. Celle-là même qui sortit le soir de notre dernier baiser pour te bouffer, me traversa rapidement, se dégueulant en toi et te transperçant, allant chercher dans tes profondeurs ce qui servit pendant toute ta durée à te faire vivre. Planté en ton cœur, te voilà crocheté, je te sentis gémir. Dans un dernier souffle, tu te donnas à moi. Cette douleur que je ressens encore comme un long silence, elle pèse dans mon foyer. Ce serpent te prit ton dernier souffle. Je t'ai pris ta dernière décharge. Je t'ai laissé tarir dans ta souffrance, cherchant simplement à te dépecer. Maintenant, tu trônes contre ce mur parmi tous les autres. Tu n'es rien d'autre qu'un vulgaire chibre qui prend la place de 23. Je referme cette cave qui abrite le massacre de nos vies. Cette décadence et toute cette puanteur que j'arrive tant bien à dissimuler. Cette existence déviante qui m'a fait me corrompre vis-à-vis de moi-même. La porte close, les clés dans mes secrets, la vipère est patiente, elle attend. que mon envie de prendre ta tête, de te descendre au fond de moi est plus forte que tout. Si je pouvais posséder cette épée, je te planterais. J'enfoncerais ce pieu en toi par derrière parce que tu aimes ça. J'enfoncerais mon pied si profondément dans ta gorge que tes yeux couleraient. J'aimerais te faire du mal si fort, comme quand tu me prends, que tu me serres fort contre toi. Je voudrais tout ça. Je voudrais revivre chacun de ces instants avec toi. De celui où, ne tenant plus, tu te déverses sur moi, sur mon ventre, cicatrisé, sur mon sexe, dans ma bouche. J'attends que tu te déclares un jour. J'attends le moment où tu vas venir concrètement en moi, où le glaive grandira en moi. Je le sens brûlant, glissant si facilement. Comme nous allons bien l'un dans l'autre. Comme tout s'imbrique et comme tout me manquera. Et pourquoi moi, déjà, comme ça, anticipant ce non-retour, ce non-savoir, mais sachant? Tu surviens dans une angoisse foudroyante où le seul remède de mon état est celui de l'éclatement de tête contre un mur de crépi. Histoire de ne pas, pouvoir nettoyer les morceaux de ma cervelle éparpillée. J'ai pensé souvent que le bonheur se trouvait dans un bol de céréales avec du lait. Et j'avais raison. Non, j'avais tort. Ce matin, dans mon bol, un cœur flotte à la surface du sang dans lequel il baigne. C'est comme un singe. Un singe dans une cuisine à qui on aurait donné un sabre. C'est comme une lampe magique qui s'appellerait Clara. Merde! Ce matin, il m'a murmuré « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Ce matin, au petit déjeuner, dans ma cuisine, mal équipée, entre deux tartines de pain, il m'a balancé « Je t'aime. » J'ai dégueulé tout mon chagrin, ramassis d'ordures et de vomi, tout est sorti. La merde chagrine laisse sa place à un sourire annonciateur. Ce bonheur merdique enjolivait peu à peu ma vie. Soudain, je me dis, merde, je suis heureuse. Il m'aime et il me le dit.
Où allons-nous ? Dans le hublot, on voit la mer qui se déchaîne et les vagues qui poussent. Et au milieu de cette déchéance, j'ai le sentiment qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. Au sommet de la montagne, sur la pierre sainte, ils avaient gravé leur nom. Sacrifice de corps et d'âme perdue. Elle tenait le flambeau de la peine. Il portait sur son dos la croix de leur enfant. Un œil dans le ciel les observait. Il pleurait, un torrent de larmes qui percutait le corps de ces malheureux. Cette eau si pure les nettoyait. Elle nettoyait la poitrine encore jeune et ferme de cette jeune femme. Elle inondait leur esprit et se noyait dans une eau de chagrin. Sur cette montagne, seul, personne ne pouvait observer la grandeur du péché qu'ils allaient commettre. Le symbole de leur union allait exploser et disparaître. Sur la pierre coulait le sang. Le fruit des entrailles était tombé. L'enfant ne naîtrait pas. L'esprit de la femme fut frappé par un éclair de colère. Leur Dieu ne pouvait supporter la peine engendrée. L'homme debout reçut des éclats de cris si intenses. Il ne pouvait accepter un tel supplice, une telle injure. Son corps se brisa. Il était étendu comme un linge sur cette pierre couverte de sang.
Lettre 3. Ton silence est lourd et pèse contre moi. La présence de ton souvenir se glisse sous mes draps. Je te sens si fort contre moi. Quand l'union parfaite te confond, que mon miel se répand tout autour de ton instrument, je te sens si fort derrière moi. J'imagine toutes ces choses que tu fais dans mon dos. Ce doit être douloureusement beau. Parce que tes doigts sont des ciseaux, tes caresses me pénètrent, des larmes, des lames de couteau. Je les sens en moi, dressées, allant plus profondément et se refermant. Je les sens qui traversent ma poitrine. Des pointes surgissent au devant, pressent l'échine. Tu traverses mon cœur sans la moindre hésitation. Tu me connais si bien. Tu sais que je n'aime que ça, uniquement dans cette position, quand c'est bien plus profond. Ça me tiraille et j'en tremble. L'artère est déchirée. Je me contracte et je sens ce liquide qui fond sur toi, qui s'échappe de moi. Il est chaud. Il glisse le long de mon dos, s'éteint dans le creux de mes reins. Mon lit est mon tombeau. L'endroit de toutes nos unions, de mes souvenirs, toutes les fois où tu me déchires, où tu me prends toute, toute entière, où tu me prends que l'organe pour te satisfaire, satisfaire ton plaisir, toutes les fois où je me vide jusqu'à en jouir. Ton silence pèse un poids immense dans cette danse qui prend le chemin d'une branche. Quand l'union si parfaite nous confond, que la douceur de tes baisers se transforme en une horde de chiens errants. La griffure est profonde et sale, l'infection est proche et la maladie incurable. Une sorcière qui aurait laissé sa main aux ongles crochus traîner dans mon cœur, avec ses verrues, ses pustules et ses poils sur les doigts.
Petit déjeuner et cuisine bien équipée. Le robot du matin me dit « Bonjour, à quoi tu sers? Va plutôt voir la cafetière. » Je bois pas de café, ça me fait angoisser. Le monde contrôle mes pensées. Prends un sachet de thé. L'eau, boue, brûle, est prête. Sors ce sachet de thé. Qu'est-ce qui flotte à l'intérieur? Des cadavres de plantes mortes, prêtes à me sustenter. Goutte, goutte de lait dans mon thé, adoucir le matin, la lumière est cruelle. Goutte, goutte de sang dans mon putain de café, je prends pas de café, un sucre, toujours un sucre, qui se dissout comme un molar dans la soupe. Un sucre, toujours un sucre. Si j'ai pas de morceau, prends-le en poudre. Sucre en poudre dans mon thé, juste, juste pour adoucir ce réveil trop ensoleillé. Goutte, goutte de sang dans mon thé. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai pas mangé, j'ai bien dégusté, découpé du pain comme un bout de jambon à l'os. Ce matin, au petit déjeuner, je laissais bien arroser mes tartines de viscères, des boyaux de chagrin sur mon morceau de pain. Arracher mon cœur avec mes mains, jeter dans le bol une céréale immense dans mon bol qui bat encore. Arrête de battre, tu éclabousses toute ma table. Coup de couteau dans mes céréales, grande bouchée, grande cuillerée, j'adore me bouffer. Je suis bonne quand je suis trempée, chaude, en sang et toute mouillée.
Phénomène nocturne. Ça lui arrive souvent en pleine nuit. Les yeux écarquillés sous son oreiller, qu'elle se met à hurler. Ça lui arrive souvent en pleine nuit de refouler, de vomir, de refouler, de vomir de la haine, de refouler le mépris, de vomir de l'amour. Ça lui arrive souvent, en pleine nuit, les draps mouillés, refouler l'indifférence, vomir la distance, se rappeler des fragments d'orgasme et refouler jusqu'à en vomir, vomir de rire, fantasmer un crime. Dans un café, ce matin, elle est entrée, cigarette en bouche, main moussée, interdit de fumer. Une arme blanche à la main, déterminée à lui planter dans sa sale gueule de petit con une lame bien profonde. Son cerveau qu'elle n'a pas pu comprendre. Une envie de l'ouvrir, de l'étaler, de défaire les nœuds de son cerveau pour connaître la vérité, pour l'appréhender. Il se tient là, comme un enfoiré, toujours avec ce même regard. Celui de ces gens qui doutent, obsédés par leur monte et leur image et un comportement méprisable de gars qui veut se rendre inaccessible. Il se tient au bar, il boit son café, sa première drogue. Il ne se doute pas qu'elle est derrière lui, prête à le poignarder, prête à le faire disparaître. Et oui, il ne s'en doute pas. Ça lui arrive souvent en pleine nuit d'y mettre la main, d'y mettre le doigt, de se caresser tout bas, juste comme ça, juste pour se décharger, se donner satisfaction, investir toute son énergie dans sa libido, juste pour s'épuiser et s'endormir. Ça transfère ses angoisses, ça l'empêche de penser.
À toi la gloire, songe d'une bipolarité née, diagnostic posé. Je m'enfonce dans ma nouvelle maladie. Et si on m'avait dit « tu es anorexique », j'aurais probablement arrêté de manger. Je suis faible et influençable. Et j'assume tout en excusant mes comportements par cette maladie naissante. Alors qu'au fond, je ne suis qu'une connasse qui a décidé de ne fournir aucun effort pour s'intégrer aux autres. J'aurais toujours raison, et cela même quand j'aurais tort, et je le saurais. Ma méchanceté est objective et réaliste. J'irai jusqu'à dire « méritée ». Je suis allée à l'église pour prier. J'étais là, assise sur ces bancs de bois, à côté des missels qui se trouvent toujours au même endroit. J'ai voulu purifier mes pensées, mais dans la maison de Dieu, mes fantasmes ont émergé. Je suis allée à l'église pour prier. Prier que ta langue vienne glisser le long de mon dos. J'ai regardé ce fils de Dieu taillé dans la pierre. Je regardais ce jeune homme à moitié nu. J'ai prié que ses mains me serrent si fort que mon bras explose en mille morceaux. Priez pour que tout mon corps succombe sous le poids de ton désir, et j'ai prié pour être dans cet état d'excitation qui me fait marcher lentement, cet état de douleur vaginale. Sentant cette pression entre mes cuisses, j'ai prié pour que la douleur cesse et que le plaisir revienne. J'ai imaginé si fort un membre me pénétrer, et je l'ai senti. Senti si fort que mon corps se plia en deux. J'ai recherché cet état qui me fait légèrement entrouvrir la bouche jusqu'aux pupilles dilatées. J'ai prié, prié pour que personne ne me voie. J'ai prié pour me retrouver à nouveau contre toi, contre ta bouche, ce trou béant dans lequel je peux me baigner pendant 10 heures. J'ai prié encore pour ressentir cette pression sur mon sexe, sans que tu aies besoin de le toucher. Je me déverse dans cette rue, au milieu des feuilles mortes et des poubelles, dans ce Paris puant l'automne, accroupi dans la flaque de mon désir. Un amour de février, délicieusement chaud et sucré, un corps plus jeune, un corps plus beau. Tout recommence, tous les 6 mois, tous les 28 février. Tout explose en moi, les hémisphères droits surtout. C'est la place que prennent les choses dans mon cerveau. Il y a des périodes durant lesquelles l'intensité de ce que l'on vit n'est pas modifiable. Et malgré mes exagérations, j'ai un sentiment véritable d'amour qui émane de mon corps, de ma tête. C'est le bordel. Mais ce n'est probablement que de l'excitation. Pourtant, je n'arrive pas à réduire ce garçon à un simple pénis. J'aimerais pourtant que les éléments qui prennent place en mon corps se simplifient. Il y a trop de choses dans mon cerveau pour le vider comme une simple paire de couilles. Il y a cette tension, cette immense douleur utérine, mais aussi cette pression dans mon cœur. Je crois que l'on appelle cela la passion. D'autres appellent cela la folie. Je crois juste que tomber amoureuse est aussi vital que boire et de manger. Et cela s'accroît dans le bourgeon de l'orgasme. Je perds littéralement la tête dans ce couloir froid et je tombe. Je tombe encore dans ses bras, secouée de sentir son membre érigé vers moi, contre mon ventre devenu vagin pour un moment. Excitation trop forte. Ma tête se met à jouir. Une explosion, des éclairs sortent de mes yeux, et je ne perçois plus qu'un bruit sourd. Mon ventre bat, prêt à vomir mon sperme féminin. À genoux, sur le carrelage froid, un chat passant à côté de moi, le cœur de ma chapelle est en feu. Je m'accroche à sa ceinture, et tout en tremblant, je glisse mes mains vers la fermeture de son pantalon. Une nuée ardente éclaire mon sexe nu. Il gonfle sous son fusil pointu. Son sexe gonfle, gonfle entre mes doigts. J'approche mon visage et ma bouche comme un enfant qui n'aurait pas mangé depuis 10 jours. Je dévore littéralement son vide. Lettre 4. Il me juge par sa pointe, sa lance qu'il brandit près de mon visage. Une braise sur ma joue me brûle, je le défie du regard d'aller plus loin. Nu comme un ver, je lance un cri. Loin de vous, tout me va. Je reprends des actions enterrées pour me résoudre à moi-même. Auto-centré. Recommencer tout ailleurs, mais en mieux. Aller au bout des choses, ne rien lâcher, ne rien laisser tomber, être ignoré, être désiré. Le soleil tape fort sur ma peau, trop fort. Je suis rouge, rouge de honte et de plaisir. Rouge de caresses solitaires et de pensées malsaines. Comme celle d'une union parfaite dans un champ de blé. Cet endroit fertile nous accueille. Je lui cours après, une torche à la main pour éclairer son derrière musclé. Là où tout me paraissait dénué de sens, il était là. J'ai une vision parfaite de son corps près des flammes. Ce merveilleux tableau me ravit. Assis en tailleur, assise sur ton heure, midi exactement. À moitié nu, le torse dévêtu contre son pelage parfait. Et ça balance dans tous les sens. D'avant, en arrière surtout, de droite à gauche parfois. Nos visages légèrement perlés se sourient. Mes cheveux roux se mélangent à ses cheveux noirs de jais. Je perds l'équilibre en arrière, la bouche entr'ouverte, laissant échapper le souffle de mon désir. Ses mains me rattrapent juste sous la côte, formant un cercueil naturel. J'offre à ses yeux ma poitrine sous laquelle vient se dessiner ma taille fine, finissant par une légère et douce toison couleur cuivre. Nos deux silhouettes sont éblouissantes. Ils règnent comme une lueur d'amour, comme si l'orgasme durait la totalité de l'ébat. Un vigoureux moment d'extase brillant.
Esquisse d'une retrouvaille. Il ne restait que l'empreinte des cadavres d'après-guerre. Cette fois-ci, tout était rempli de caresses, de désirs et d'amour. Avec lui, j'avais tout connu de ma vie et j'apprenais encore. La vie était surprenante. Elle me faisait tomber amoureuse chaque jour un peu plus. Il m'avait à demi pris contre lui, il scrutait avec ses yeux, avec ses mains, les parcelles de mon corps comme un enfant maladroit. Il jouissait à l'être, soulevant avec ses doigts la culotte blanche que je portais. Sa langue se posa sur mes lèvres. Je fus envahi rapidement par l'excitation. Ma respiration s'accéléra. Il continua en lapant régulièrement le clitoris. Mon corps se crispait et donnait quelques à-coups sous son visage. Je n'en pouvais plus. Il se hissa jusqu'à moi, m'embrassa avec un filet de mon odeur dans la bouche. Son baiser était doux, mouillé. Tout contre moi, je sentais son membre érigé, cherchant le chemin humide entre mes cuisses. Rien n'était comme d'habitude. Ces retrouvailles pleines d'amour et d'audace, tout me sembla naturel. Les regards, les caresses, la pénétration, son sexe immense ne tarda pas à trouver la bonne voie et très doucement il s'introduisit en moi. Il me prenait par derrière allongé sur le flanc. Je pouvais lui faire face, l'agripper, le regarder, l'embrasser et lui gémir au visage. L'excitation était à son comble. Son pénis entouré de ses doigts dans le même trou, une partie de moi ne tenait plus en place. Un regard... Puis il se retira doucement et prit le chemin de mon anus. Le début fut un peu difficile, mais mon intérieur ne tarda pas et mouilla aussitôt, presque aussi généreusement que ma petite chatte. La douleur du départ se dissipa en plaisir immense lorsque mon partenaire entra entièrement en moi et je jouis une première fois. Je me demandais comment une bite aussi grosse pouvait entrer dans mon derrière. Peu à peu, je pris le relais des mouvements de va-et-vient, et je jouis une deuxième fois, et je le repoussai en dehors de moi, mon trou demandant le repos. Je descendis prendre en bouche ce tuyau érigé, que je passais rapidement sous mes dents et mon palais, jusque dans le fond de ma gorge, allant chercher rapidement le réflexe de régurgitation qui lubrifiait encore plus ma bouche. J'aimais manger sa queue. J'aimais l'enfoncer plus loin que de raison, jusqu'à ce que mes yeux s'y imbibent de larmes. Il fallait que je m'en retourne à une pénétration plus profonde. À cheval sur lui, je le fis gémir, lui fis dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » en plein ébat. Il voulait jouir en moi et je lui proposais de finir par derrière. Son pénis glissa très aisément la seconde fois. Je sentais mon anus dilaté, écarté comme jamais, prêt à recevoir une rincée d'orgasme. Nos deux corps se courbaient et ondulaient de plus en plus vite. Je sentis dans ma croupe sa bite se gonfler. Dans un petit cri, il se déversa en moi. Longtemps, 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 longtemps.
Cervidé. Et quand le cerf tombe sur ses bois, un immense cri, un immense fracas. Il laisse derrière lui un bout de sa carcasse. Il laisse derrière lui, et pour nous le symbole de ce qui était sa force et sa vie. Et il se piétine entre les arbres, il court au grand galop pour ne plus souffrir. Il s'en va loin, très loin, pour oublier la douleur, en attendant que ses bois repoussent. Il vit seul, les autres ne veulent plus de lui. Sans ses bois, le cerf n'est pas, sans ses bois, le cerf n'est rien. Tout est amour, tout est trahison. Ces bois grandissent et se dressent dans les profondeurs de cette forêt. La vie reprend. Il donne un nouveau souffle de vie aux cafards de l'océan. Et les carcasses se surpassent. Elle, en un souffle guidé par le vent, danse autour de lui. Ses mains encerclent sa gueule, caressent son corps. Tout est vie, tout est harmonie. Tout est fusion dans les bas-fonds de l'océan. Personne ne peut les voir, personne ne les entend. Éclaboussure. L'or fond et il gicle sur les bois, sur les arbres, sur la vie qui reprend doucement. Ô grand maître, que pourrais-tu me pardonner? Le breuvage ne m'atteint plus. Dans la descente, quelque chose me ralentit. Entre une lumière devenue terne et le puits boueux, je sombre. Les poches pleines de bile noire, elles dégueulent sur moi. Si lourd est le liquide que le pantalon ne tient plus. Les bretelles explosent et contre les parois de pierre, l'embout se cogne, dégageant un cliquetis sourd. Tout se casse, mais rien ne me perfore. La bile se baigne en moi, nageant aussi vite que ma chute, jonglant entre mes trous, slalomant à travers les articulations. Une agréable et oppressante douleur parcourt mon corps dont le souffle m'insurge. Je respire du plomb. Il est difficile de faire passer cet air dans mes poumons. Je tousse fort et l'étau se resserre. Je peux sentir plus proche de moi les parois froides du puits. De bas en haut, mes gémissements résonnent. Et comme une éclipse qui atteindrait le soleil, j'heurte quelque chose de dur. Une intense contraction me bloque à deux pas de ce sol. Ma tête se relève doucement et je m'évertue à laisser s'échapper ce qu'il reste de précieux en moi. Un liquide chaud se propage, calmant l'ardeur de la plaie. Mes mains me caressent à la découverte de ce nouveau corps empalé dans la pierre. Se brandissant à travers moi et m'élevant vers le faisceau de lumière. Mon imagination se perd, laissant place à la réalité. Au seuil de ma jeunesse et de mon apogée, un vent me balaye. Ma carapace ne se dérobe pas, elle se fit emporter. Dire d'une poudre qu'elle ne s'envolera pas, sans conséquence sur sa vie, on lui ôta tellement de choses dans un esprit de contrainte et de variation. Sans prétention, elle attire à la foudre, si dure est-elle en vie. D'une subtile bonté, elle aurait pu renaître en un cliquetis, mais l'humanoïde qu'elle avait rencontré toucha le ciel du bout de ses doigts. Elle explosa de son corps, jaillit de la lumière qui restait en suspens au-dessus de ce qui restait de la vie. Le cerf n'était pas dupe, il comprit rapidement la trahison. Dans son tourment et ses blessures, il se servit de son vide, nettoya les terres du flux d'argenté qui s'écoulait de son extrémité. Dur sera l'éclosion, il se tordait sur un rocher de souffrance. En son ventre, lui le mâle pouvait enfanter. La sueur perlait sur tout son corps, il se sentait humide. L'enfant-feu provoquait en lui des tremblements de partout son être. Jamais en ses sentiers une telle scène ne fut observée. Non loin de lui, les fleurs se fanaient, les oiseaux ne pouvaient plus siffler, se mettaient à hurler. Imaginons que mon cœur soit une pelote de laine, que les fils de laine soient des veines. Imaginons que je me coupe au bord de l'index et que le fil de laine dépasse un peu. Imaginons qu'en passant par là, tu tires dessus, lentement au début, pour bien que je sente la laine accrochée à mes os, ma chair et ma peau. Et qu'au moment où tu sentiras la résistance, tu tires d'un coup sec.
Le gâteau à la fraise. Il voulait un gâteau à la fraise. Je suis devenu un gâteau à la fraise. Dans sa voiture, en un clin d'œil, son désir s'exauça. J'étais ronde, crémeuse et bourrée de fraises. Il me mordit, me croqua et mangea un bout de moi. Sa bouche délicieuse chauffa tant mon corps que ma crème fondit. Elle passa à travers mes vêtements. Liquide et moite, j'étais sur le sol. Il ne se déroba pas. Il lapait toute la crème éparpillée et s'attardait sur les petits morceaux de fraises. Il léchait doucement, généreusement, intensément, ce petit bout de fraise, ce petit bout de fruit tout rouge qui dépassait de cette crème légèrement rosacée. Il nageait dans mes profondeurs, se nourrissant de ma douceur. Mes sucreries animant rapidement le cerveau, il ne pouvait plus tenir, mais avait mangé tout le gâteau. Je n'étais plus. Il s'allongea et caressa son petit membre. Il décalota sa queue et essuya dessus un peu de crème qui était resté au bord de ses lèvres. Et comme pour me pénétrer, il se retourna contre le sol. Il se mit à genoux, un bras contre le mur. Il commença à se toucher plus fort, imitant les mouvements de va-et-vient de l'amour. Il se masturbait fort. Puis, le sperme s'échappant, j'apparus devant lui comme une étoile filante au bout de son sexe, encore érigé vers moi. Eh bien, voilà. Je dois vous dire que nous avons lu des textes d'Antoinette Marshall et que j'ai oublié de vous répéter régulièrement tous les quarts d'heure que nous sommes sur Aligre FM 93.1, mardi matin. On the road again. Non, c'est pas ça. Oui, mardi matin, faites attention sur la route, dans vos rapports avec votre patron. Hashtag balance ton porc. Et que tout se passe bien et que la journée vous soit prospère. Et on se revoit mardi prochain.